Et devant nous tous les mystères de notre salut, afin de nous nourrir de la grâce du Sauveur qui doit grandir en nous jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la plénitude de l'âge du Christ, c'est-à-dire au degré de sainteté auquel nous sommes prédestinés. Nous pourrons alors entrer dans la béatitude éternelle. C'est parce qu'elle est vivante de la vie même de Dieu que la liturgie est vivifiante et communique ce qu'elle possède de Dieu. La première période dans laquelle nous sommes entrés, le temps de l'Avent, est un temps d'espérance où se mêlent des sentiments de tristesse et de joie, qui en font un temps de pénitence et un temps de joie. Tout d'abord, un temps de pénitence. Saint Grégoire le Grand, au VIe siècle, constatant les maux innombrables de son époque, le soulèvement des peuples les uns contre les autres, répandant la terreur sur la terre, des villes nombreuses détruites par des tremblements de terre, des maladies pestilentielles, se demandait si les signes précurseurs du retour de notre Seigneur, que nous avons lu dans l'Évangile, n'étaient pas proches de se réaliser. Il en concluait que ces mots étaient un avertissement pour se préparer à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ et se détacher des choses de ce monde. Nous pouvons aujourd'hui, au XXIe siècle, faire le même constat. Des maux innombrables nous entourent. Des organismes puissants répandent la terreur sur la terre, propagent des maladies pestilentielles, veulent réduire l'humanité à 1 milliard d'hommes pour soi-disant sauver la planète. Le Seigneur permet cela pour nous préparer à le recevoir et nous détacher des biens de la terre. Comment allons-nous nous préparer? En rejetant toutes les œuvres des ténèbres, nous dit saint Paul dans l'Épître. Les œuvres de ténèbres, ce sont tous les péchés, avec toutes leurs conséquences, tant individuelles que sociales. C'est la vertu de pénitence qui va nous faire rejeter ces œuvres de ténèbres. Cette vertu de pénitence, on en connaît les trois actes dans l'acte de contrition, elle nous fait d'abord détester le péché commis, par lequel nous avons offensé Dieu, infiniment bon et aimable. C'est ce qu'on appelle la contrition, le brisement du cœur, qui doit changer nos dispositions intérieures. Nous avons aimé ce qui déplaît à Dieu, nous nous y sommes attachés, alors nous nous dédisons, nous rejetons loin de nous ce péché. Ce premier acte n'est pas encore suffisant, car le péché a eu des effets. Il a laissé des traces, comme un projectile, une balle, laisse des traces quand elle traverse un corps. Tout d'abord, il a été une insulte envers Dieu. Souvent, il a lésé le prochain. Alors, nous devons réparer, payer notre dette à la justice de Dieu. Justice envers Dieu, justice envers le prochain. C'est-à-dire faire de dignes fruits de pénitence, comme le demandait saint Jean-Baptiste aux foules qui venaient l'écouter au bord du Jourdain. C'est nécessaire, disait-il, si nous voulons éviter la colère à venir. Que devons-nous faire? Demanderons-nous à saint Jean-Baptiste avec la foule. Il nous répond que celui qui a deux tuniques en donne une à celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. C'est-à-dire, c'est pratiquer la charité envers les pauvres. Cette charité dont la Sainte Écriture dit qu'elle efface une multitude de péchés. Aux publicains, c'est-à-dire tous ceux qui vivent du commerce, de l'argent et des affaires, il leur demande de ne rien exiger au-delà de ce qui était ordonné. Il s'agit d'exiger le juste prix de la marchandise, le juste prix du salaire pour un entrepreneur, ne pas frauder, Aux soldats, il dit ceci. Il leur commande de ne pas user de violence. En effet, les soldats, à l'époque, ils avaient des missions. Et puis, ils en profitaient un petit peu. Donc, ils faisaient pression sur les civils pour exiger de l'argent. Ils allaient même jusqu'à calomnier pour obtenir leur fin. Donc, il leur demande de se contenter de leur solde. Saint Jean-Baptiste vise ici tous ceux qui ont un certain pouvoir et s'en servent pour extorquer de l'argent. Le troisième acte de la vertu de pénitence, c'est la ferme volonté de ne plus recommencer en prenant tous les moyens nécessaires. Pour accomplir ces actes de pénitence, il faut avoir l'esprit de pénitence. Qu'est-ce que c'est ? C'est un souffle de l'Esprit Saint qui entretient le feu de la charité dans l'âme en état de grâce et lui rend facile et fréquent tous ces actes. Alors détaillons-les. Le premier, nous avons dit que c'était la contrition. Mais cette contrition, elle ne doit pas être passagère, une fois de temps en temps. Elle doit être habituelle. C'est la componction du cœur. On se souvient non en détail de nos péchés, parce qu'on pourrait être de nouveau tenté de trop les rappeler en détail, mais du fait d'avoir offensé souvent le bon Dieu. Et ce souvenir doit tirer des larmes de notre corps. Et ces larmes seront douces à notre âme. C'est de telles larmes que saint Pierre versa toute sa vie au souvenir de son reniement. Ces larmes sont bonnes, car elles nous guérissent de notre attrait pour le péché. Ce qui faisait dire à Bossuet que le péché est le seul mal que l'on guérit en pleurant. Le deuxième acte de la vertu de pénitence, c'est la fuite des occasions de péché. Fuir les occasions de péché, c'est la preuve d'un véritable repentir. Quand on est sous l'influence de l'esprit de pénitence, on a une conscience très nette de notre fragilité. On sait que nos ennemis sont plus forts que nous, que Dieu ne nous aidera pas si nous négligeons les règles élémentaires de la prudence. Prenons un exemple concret, l'usage d'Internet. Tant qu'une règle précise et stricte n'a pas été prise par l'utilisateur, soit en tant qu'individu, soit en tant que chef de famille, le diable se frotte les mains. Il est sûr de la victoire. Les conséquences en sont terribles. Elles durent des années, jusqu'à créer de véritables addictions comparable à l'usage de la drogue. Que pouvons-nous faire par rapport à ces séductions du démon qui viennent jusque dans nos maisons et dans notre poche? Elles bénéficient en effet de l'appui ou du moins du laisser-faire des autorités civiles et sociales. Certes, nous ne sommes pas responsables du péché des autorités civiles et sociales. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons rien faire pour nous protéger. Rappelons-nous le succès, bien que temporaire, remporté par la Ligue nationale pour la défense de la liberté religieuse au Mexique en 1926. Le gouvernement franc-maçon avait décidé d'interdire le culte catholique. Pour lutter contre cette suspension du culte, la Ligue, forte de 800 000 membres, dont 500 000 femmes, décide un boycott économique et social. Donc, ils boycottent les transports, les magasins, les restaurants, les cinémas, les théâtres et l'usage du tabac. C'est une tradition au Mexique de fumer le cigare, le pays du tabac. Et donc, ils ont décidé de ne plus fumer. Et c'était un petit peu difficile pour les catholiques, parce que tout le monde fumait un cigare de temps en temps. Alors, ils ont décidé de ne plus fumer. Grosse pénitence pour eux. Les entreprises monopoles d'État, en quelques jours, ont fait une baisse de 75% de leur chiffre d'affaires. Certaines étaient prêtes de déposer le bilan. Et de fait, ça allait être un succès. Mais, comme toujours, il y a des gens qui n'ont pas marché. En principe, c'était ceux qui étaient riches. Et donc, ils avaient des intérêts dans certaines entreprises et ils ne voulaient pas voir capoter leur entreprise. Donc, ils ont cherché des secours auprès des autorités religieuses, etc. Et finalement, ça n'a pas duré longtemps. Mais quand même, ça a eu une influence importante. Le gouvernement était prêt de céder. Alors, si les catholiques mexicains se sont imposés de tels sacrifices pour la messe, peut-être devons-nous les imiter pour honorer Dieu et pour la sanctification de nos âmes. Nous sommes la ligue du bon Dieu, destinée au ciel. Alors nous devons boycotter les appâts du monde dont il se sert pour nous perdre. Nous devons nous déconnecter de ce monde de ténèbres pour nous connecter à Dieu seul, par une vie de fidélité à la grâce. Effectivement, ceux qui gouvernent le monde, ils ont besoin d'une clientèle. S'il n'y a plus de clientèle, il ne peut plus rien faire. Le troisième acte de la vertu de pénitence, c'est l'acceptation calme et résignée des croix envoyées par la Providence. Ces croix, ce sont les meilleures pénitences pour notre progrès spirituel, parce que nous ne les avons pas choisies. L'orgueil ne s'y glisse pas facilement, et enfin, elles sont taillées par Dieu à notre mesure. C'est le remède, certes amer, mais qui est adapté à notre état et qui nous procurera la guérison. Telles sont les contrariétés dues à notre entourage, dans la famille, dans le travail, les maladies, les deuils, etc. Et c'est la demande que fait le prêtre lorsque vous allez vous confesser. La dernière oraison qu'il dit comporte ces paroles. Que tout ce que vous aurez fait de bon et tout ce que vous aurez supporté de pénible vous soit appliqué pour la rémission des péchés, l'accroissement de la grâce et la récompense de la vie éternelle. Si nous devons avoir continuellement cet esprit de pénitence, est-ce à dire que nous allons vivre toujours dans la tristesse? Non, pas du tout. Car l'esprit de pénitence est le frère de la vraie et solide joie chrétienne, qui naît de l'amour de Dieu. Dans une âme vraiment chrétienne, la tristesse selon Dieu cohabite avec la joie selon Dieu. C'est pourquoi on retrouve ces deux sentiments dans le temps de l'Avent. Alors voyons maintenant ce temps de joie qu'est l'Avent, une joie qui va grandissant jusqu'à Noël. Après nous avoir exhortés à rejeter les œuvres de ténèbres par l'esprit de pénitence, saint Paul nous demande de prendre les armes de la lumière, de nous revêtir de Jésus-Christ. Qu'est-ce à dire? Se revêtir de Jésus-Christ, c'est adhérer fermement à sa volonté en pratiquant ses enseignements. Premièrement, c'est de faire tout par amour pour lui. Pendant ces 4 semaines de l'Avent, nous allons nous préparer à recevoir d'une manière spéciale celui qui est à la fois notre Dieu, notre Sauveur, notre ami le plus intime, notre Seigneur infiniment aimable. Et il veut venir d'une manière toute nouvelle dans notre âme par cette grâce de Noël qui porte en elle toutes les douceurs et les délicatesses de la crèche. Cette grâce est très propre à stimuler notre amour pour l'enfant divin. Alors cet amour va rendre plus facile l'accomplissement de tous nos devoirs, même les plus austères. Car, dit saint Augustin, l'amour bannit la peine, ou s'il y en a, il la rend aimable et légère. Cet amour de Dieu va nous mettre dans une sorte d'impossibilité morale de péché. Comment cela? Saint Jean de la Croix nous l'explique. Avec l'amour de Dieu, l'âme est forte contre la chair, son ennemi. Car là où règne le véritable amour de Dieu, ni l'amour de soi, ni l'intérêt personnel n'ont d'entrée. Pour alimenter cet amour, faisons comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Jetons les brindilles quotidiennes de nos sacrifices, de nos renoncements, dans le brasier de la charité qui a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour de charité sans cesse alimenté, et nous serons alors de plus en plus unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est avec nous continuellement, qui sera contre nous? Rien, dit saint Paul, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Donc, pas même les puissances des ténèbres et ses serviteurs avec toutes leurs séductions. Nous n'avons rien à craindre si ce n'est nous-mêmes. Cette charité qui est dans notre âme est comme l'âme de notre âme. De même que notre organisme physique a besoin d'exercice physique pour se développer, pour garder la santé, notre âme a besoin de s'exercer dans la pratique des vertus pour garder la santé surnaturelle et croître en sainteté. Pendant cet avant, nous allons pratiquer certaines vertus. Et le meilleur moyen de nous préparer à Noël, c'est de pratiquer les vertus de l'enfance spirituelle. Les vertus de l'enfance sont naturelles aux enfants, vertus naturelles. L'enfant est naturellement humble, il a conscience de son indigence, il demande facilement à ses parents, il attend tout d'eux, il est sans prétention, il ne garde pas rancune, il ne s'inquiète pas du lendemain, il est sans malice, il ne ment pas, il est innocent et pur, il est aimant et confiant, et il s'abandonne totalement aux soins de ses parents. Il ne se pose pas la question, est-ce que mes parents sont capables de m'éduquer, etc. Non, il ne se pose pas ces questions. Donc, il nous faut imiter l'enfant au spirituel, c'est-à-dire avoir un esprit filial par rapport à Dieu. Dieu est notre Père, notre Seigneur nous a enseigné qu'il était notre Père. Donc, il faut qu'on soit vis-à-vis de lui comme un enfant et par rapport à ses parents. Et par rapport à notre prochain, un esprit fraternel. Avoir d'humbles sentiments de nous-mêmes, nous détacher du créé, mettre toute notre confiance en Dieu, en sa providence, et nous laisser corriger par notre Père du ciel. Les corrections, c'est souvent les épreuves qui nous arrivent. Rien n'est plus contraire à l'esprit d'enfance que le manque de résignation dans les épreuves, les murmures contre la providence, la fuite des petites croix quotidiennes, se dépiter de ses fautes quand on est tombé. Puisque nous attendons Jésus, qui a voulu se faire enfant pour nous enseigner la voie de la petitesse, demandons cette grâce pour accomplir ce qu'il a commandé. C'est lui qui nous a demandé de redevenir comme de petits enfants si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. C'est à cette condition que nous accomplirons heureusement notre avant mystique qui doit se conclure à notre mort. Alors demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qui, elle, s'est proclamée la petite servante du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.